divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Bonjour à tous. Sylvie Tardif, conseillère nationale de la Fédération française du droit humain. Dans la suite de notre émission du 30 août sur les combats pour les droits des femmes, nous avons souhaité traiter du thème « Les droits de l'enfant » et d'entendre deux voix en écho, l'une pour la société civile, maître Martine Valo-Forest, et l'autre au nom de la Fédération française du droit humain, le frère Georges Jutner. Je laisse la parole à notre journaliste, Marc de Zouter, pour conduire cet entretien.
Bonjour à tous. Martine Valo-Forest, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du travail et du droit de la famille, et c'est votre expertise en ce domaine précis qui nous intéresse aujourd'hui, car vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Votre couple, Les nouveaux droits de la famille, Bien négocier son divorce, Divorce, question d'enfant, ou encore Le divorce pour les nuls, tous ces ouvrages parus aux éditions First. Vous êtes une juriste qualifiée pour tout ce qui concerne les rapports de l'enfant au droit. Georges Jutner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, expert auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, agréé par la Cour de cassation. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage « Papa, maman, le juge et moi », paru aux éditions Gallimard. Vous êtes aussi et surtout grand orateur de la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international « Le droit humain ». Le grand orateur, c'est un peu le gardien de la loi maçonnique, des règlements généraux de l'ordre. Vous êtes donc doublement qualifié pour nous répondre et participer à cette émission. Pourquoi le droit humain, justement, s'intéresse-t-il aux droits de l'enfant ?
Les droits de l'enfant font partie des préoccupations du droit humain depuis sa création, c'est-à-dire au fond depuis l'initiation de la première femme initiée en franc-maçonnerie, Maria de Rheims, qui a été une féministe convaincue de la deuxième moitié du XIXe siècle, et notamment au regard des droits des femmes, et après elle, Marie Becquet de Vienne, qui a créé le premier foyer mère-enfant à l'origine de ce qui donnera les foyers de l'aide à l'enfance et la protection maternelle et infantile.
Alors les questions concernant la famille et l'enfance sont au cœur des préoccupations aujourd'hui. On le voit avec l'accouchement sous X, la filiation, la parentalité, qu'il s'agisse de monoparentalité, d'homoparentalité, ou encore l'adoption homosexuelle ou la question des enfants nés sous gestation pour autrui à l'étranger. Martine Valo-Forest, la loi sur le mariage pour tous à pulvériser les codes traditionnels de la famille.
On est loin du mariage tel qu'évoqué par le Code civil de 1804. L'heure est maintenant à la variété des compositions et recompositions familiales. On est passé du collectif à l'individu et de la prise en compte des ambitions et des désirs de chacun, d'où la multiplication des contrats, la Pax, le mariage. Et donc, nous voyons aujourd'hui, grâce au progrès de la science, les couples homosexuels accéder au mariage et donc à la filiation.
Alors Georges Jutner, comment le droit humain aborde-t-il ces questions de transformation de la famille et du droit ?
Si on prend l'expression même « droit humain », on voit bien que nous sommes dans la filiation des droits de l'homme et de leur déclaration. Il n'y a pas, pour un franc-maçon du droit humain, de différence à faire sur la qualité d'un sujet en fonction de son âge. Un sujet est à prendre en respect de sa naissance à sa mort.
Alors, on parle beaucoup de parentalité, Martine Valo-Forest. Est-ce qu'elle a pris le pas sur la notion de parenté ?
Pas encore, parce que le biologique est important, mais l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'on ne s'arrête pas seulement au biologique, mais aussi qu'on prenne en compte le parent sociologique et affectif, celui qui est près de l'enfant au quotidien, et notamment cette prise en compte s'étend aux beaux-parents. Dans certains autres droits proches de chez nous, par exemple en Allemagne, le statut du beau-parent est dans le code, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais évidemment les juges aux affaires familiales prennent en compte et accèdent à des demandes de délégation d'autorité parentale notamment, ce qui est extrêmement important et c'est ce qui d'ailleurs a fait évoluer notre droit dans les couples homosexuels, puisque avant le mariage pour tous, deux femmes ou deux hommes vivant ensemble et élevant un enfant, celui qui n'était pas le parent biologique n'avait pas de droit. Donc il y a eu une jurisprudence qui a permis à ce parent proche, celui qui élève au quotidien, d'avoir des droits.
Alors on se rend compte que cette famille, Georges Huttner, est polymorphe. Le droit humain souhaiterait qu'il n'y ait pas une loi univoque pour tous ces cas de tout à fait particuliers.
En tous les cas, je pense, en fonction de ce que m'a appris ma pratique, qu'il y a des situations très multiples. Alors, c'est vrai que nous ne savons pas aujourd'hui s'il pourrait y avoir une loi univoque. Nous parlions des beaux-parents. J'ai vu tous les cas de figure. Un beau-parent qui quittait le conjoint, qui disparaissait purement et simplement, après avoir vécu 10 ans avec l'enfant. J'en ai vu d'autres déchirés par cette séparation, auxquels le parent interdisait la fréquentation. Tous les cas de figure sont possibles, mais il faut défendre un point de vue. C'est pour chaque enfant le droit à accéder à sa propre identité et à sa propre histoire. C'est comme ça qu'il va se construire.
Alors ce droit à l'identité, c'est bien ce qui est derrière les enfants nés sur GPA à l'étranger, gestation pour autrui. Martine Wolff-Forest, le droit peut-il ou doit-il évoluer en ce sens ?
Il a évolué puisque tout récemment, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2015 qui autorise les services d'état civil français à retranscrire la naissance d'enfants nés sous GPA à l'étranger. J'ajoute que pour les enfants nés sous GPA en France, ce n'est absolument pas possible. Mais on ne laisse pas dans la nature ces enfants qu'on appelait des enfants fantômes.
Alors, avant de terminer, de clore ce chapitre du droit à l'enfant, je voudrais que l'on évoque la question de l'adoption homosexuelle. On est ici, Martine Wolff-Forest, directement dans les conséquences directement du mariage pour tous.
Oui, effectivement, le mariage pour tous permet aux couples homosexuels d'accéder à l'adoption, mais tout comme tout couple, donc ils n'ont pas plus ni moins de droits que d'autres. En étant mariés, on a un couple marié a droit à l'adoption.
Alors quel est le regard du pédopsychiatre Georges Huttner sur ces questions des deux papas ou des deux mamans ?
La question fondamentale que vous posez, c'est celle de l'inscription de la différence des sexes dans la vie psychique de l'enfant. Je dois faire une remarque, parce que je l'ai souvent entendu, qu'il y a une sorte d'arrière-pensée qui prêterait aux parents homosexuels des intentions perverses sur leurs enfants. Alors, je dois vous dire que la plupart des sévices que j'ai vus pendant 40 ans de carrière étaient dans des familles constituées, entre guillemets, de manière habituelle et classique. En tout état de cause, il est sûr que l'enfant, même en se promenant dans la rue, voit des hommes, des femmes, et qu'il a des idées sur la différence des sexes, qui est un des éléments fondateurs de la personnalité.
Après le droit à l'enfant, on en arrive au droit de l'enfant, domaine juridique dans lequel s'exerce votre expertise, l'un comme l'autre. On ne traite plus l'enfant aujourd'hui à partir de l'intérêt des adultes, mais on considère l'enfant, Martine Wolff-Forest, comme une personne égale, ayant des intérêts propres. C'est au centre des procédures de divorce que vous connaissez bien ?
Absolument. D'ailleurs, on voit l'enfant de plus en plus sollicité. L'enfant est une personne certes vulnérable, mais ce n'est pas une personne incapable. C'est un être libre qui a des intérêts propres, distincts de ceux de ses parents. Il a le droit d'être protégé. Il doit être protégé. Il n'a pas demandé à venir au monde. Donc, ses auteurs ont une responsabilité à son égard. Et si cette responsabilité ne s'exécute pas d'une façon normale, eh bien, ses auteurs, c'est-à-dire les parents, peuvent être sanctionnés. Donc l'enfant, si ses intérêts dont le juge aux affaires familiales et le gardien ne sont pas respectés, peut se voir nommer un administrateur ad hoc. Donc, tout ça pour vous dire que l'enfant a le droit d'être traité avec la même dignité que tout être humain et avec humanité.
Georges Huttner, cette question de l'écoute de la parole de l'enfant est au cœur de votre livre « Papa, maman, le juge et moi ». Comment se détermine, selon les cas où votre expertise a été sollicitée, l'intérêt supérieur de l'enfant ?
Alors, tout d'abord, il faut dire que nous avons connu une hésitation, un effet de balancement entre deux extrêmes qui étaient d'une part la sacralisation de la parole de l'enfant et d'autre part le déni de la parole de l'enfant. On est maintenant dans un moyen terme. Et justement, dans ce moyen terme, il y a cette notion fondamentale qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est directement issue de la Convention internationale des droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989, et qui définit les composantes de cet intérêt supérieur qui est fait d'un droit à l'identité, du droit à la nourriture, à l'hébergement, à l'instruction, à la fréquentation de ses parents et au fait d'être attaché à sa culture d'origine. Et maintenant, les tribunaux se sont emparés de cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant.
Alors, on doit aussi souligner une évolution importante dans les droits de l'enfant, Martine Vallaud-Forest, celle qui concerne les enfants naturels par rapport aux enfants légitimes. Il n'y a plus de distinction aujourd'hui entre les deux ?
Non, depuis la loi de 93, les enfants légitimes et naturels sont sur un pied d'égalité. Ensuite, par la loi de 2001, ils ont les mêmes droits en matière de succession. Donc, on va parler des enfants et on va plus faire cette distinction suivant le contexte dans lequel ils sont nés.
Alors, j'imagine que cette égalité pour tous les enfants a été saluée par le droit humain, Georges Huttner.
Bien sûr. Parce que l'expression « enfant naturel » évoquait au fond le fait que l'enfant se résumait en quelque sorte à un corps, à une histoire biologique. Et on lui enlevait toute la dimension identitaire, donc symbolique, de son histoire, de sa personnalité. Alors il y a une très belle expression proposée par Françoise Dolto à propos de ces enfants qui ne connaissaient, qui n'avaient accès qu'à un seul de leurs deux parents, en prenant modèle sur les hémiplégies, c'est-à-dire les gens qui sont privés de la moitié de leur corps. Pour ces enfants, privés de la moitié de leur histoire, elle parlait d'enfants hémiplégiques symboliques.
Alors vous êtes Martine Vallaud-Forest, spécialiste du droit de la famille, je le disais au début de cette émission. Vous avez relevé des évolutions importantes concernant l'autorité parentale. Le droit fait-il passer le concept d'autorité parentale à la notion de responsabilité parentale ?
Oui, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. On part de très loin puisque, encore dans la Rome antique, le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants. La puissance paternelle a vécu jusqu'à l'aube du XXe siècle. Le pater familias avait toute autorité et sa femme, la femme a accédé très tardivement à l'émancipation, comme aujourd'hui il arrive pour les enfants. Les enfants s'émancipent et ont un droit autonome. Eh bien, il y a aujourd'hui un individualisme qui est pris en compte. L'enfant a son existence propre, a le droit d'être assisté lorsqu'il va demander au juge d'être entendu. Et donc, on est dans le concept de responsabilisation de chacun. Donc, dans la famille, le père, la mère, l'enfant essayent d'être placés sous un même pied d'égalité.
Et dans le droit de la famille, Georges Huttner, vous me disiez que le droit humain considère qu'il faut aller plus loin en liant droit et devoir. De quelle façon ?
Mais de toutes les façons, la loi qui est référée directement au droit de l'homme, au droit humain, c'est à la fois une partie de droit, mais c'est également une partie de devoir et d'obligation. Et même, d'ailleurs, sur cette réflexion, alors il est vrai qu'on pouvait employer à l'époque les formules droit de visite, droit d'hébergement, qui ont disparu, puisque maintenant on parle de garde alternée, dont le juge fixe la quantité exacte. Mais en tout état de cause, il ne suffit pas de faire un enfant, de s'en aller, et puis même d'envoyer un petit bout de pension alimentaire une fois par mois. Il y a obligation, à mon sens, pour le développement de l'enfant, d'avoir, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, accès à ses deux parents. Et il y a une sorte de délinquance quand un des deux parents renonce à fréquenter son enfant. D'où l'idée du droit et de l'obligation de visite.
Alors un mot sur la correction, Martine Vallaud-Forest. La gifle, la fessée, le martinet, ce sont des sévices ?
Oui, tout à fait. Sanctionné, et on se rappelle du film de Claude Pinoteau de 1974 où Lino Ventura administrait une gifle magistrale à Isabelle Adjani. Ça n'émouvait personne. Aujourd'hui, c'est sanctionné. J'ai eu une affaire comme ça qui a permis à ce père d'être de comparaître en correctionnel. Donc, le Conseil de l'Europe a sanctionné la France le 4 mars 2015 pour n'avoir pas retiré de sa législation la gifle, la fessée. Nous ne devons pas corriger nos enfants.
L'internationalisme du droit humain, Georges Huttner, permet de porter un regard comparatif sur la législation dans ces différents pays.
Effectivement, la deuxième particularité du droit humain, c'est son internationalisme. Nous sommes implantés dans plus de 55 pays et dans un respect fondamental des droits humains, nous respectons les cultures où nos différentes loges se développent.
Bien, c'est la fin de cette émission. Ce sera le mot de conclusion. C'est à vous, Sylvie Tardif, pour la fin de cette émission.
Je vous remercie. Notre prochaine intervention sur France Culture aura lieu le dimanche 29 mai 2016. Nous traiterons du thème franc-maçonnerie et spiritualité, qui fera suite à notre conférence du 16 avril avec des invités prestigieux. Dans l'intervalle, je vous donne rendez-vous le 27 février pour une conférence « Regard éthique sur la vulnérabilité » avec Emmanuel Hirsch, Pierre Bretemieux et Marie-Pierre Pancrazy. Je vous invite à vous rendre également régulièrement sur notre nouveau site www.droithumain-france.org où vous pourrez avoir plus d'informations. Et comme toujours, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes si vous les avez manquées sur notre site ainsi que sur le site de France Culture. Vous y trouverez également l'annonce d'une série de conférences publiques au thème ô combien actuel. Franc-maçonnerie et liberté, par exemple, le 2 avril 2016 à 15h au Centre de diffusion artistique de Poissy. Il y aura un temps d'échange et un verre de l'amitié pour poursuivre le dialogue. Et comme toujours, vous pouvez nous écrire Droit Humain, 9 rue Pinel, 75 013, Paris, ou par mail à contact@apfdh.org. Nous assister pour la réalisation de cette émission, Madame Dany Journeau et Monsieur Bernard Laniel pour la partie technique. Merci à tous et à bientôt.